France Inter.
Merci d'écouter France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Des urgences saturées comme jamais depuis le Covid, la faute à l'épidémie de grippe qui continue de se propager. Nous serons à Nice dans un instant et en Lozère avec des soignants d'EHPAD qui refusent la vaccination. Bon vent et bonne mère, papa, les mots de Marine Le Pen ce matin pour saluer la mémoire de son père au lendemain de sa disparition. Des manifestations d'opposants hier soir en France. Mort, même l'ennemi a droit au respect, réagit la porte-parole du gouvernement que nous écouterons. Et puis à 13h50, c'est la France, la chronique d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Ce qu'il nous reste à découvrir sur Jean-Marie Le Pen et notamment un discours très étonnant du Le Pen député dans les années 50 qui parle de l'importance pour la France des musulmans d'Algérie. À suivre encore, ces 5 départements du nord de la France en vigilance orange, neige et verglas, Olivier Proust.
Et oui Jérôme, la neige s'invite en ce moment même, elle remplace la pluie dans l'intérieur de la Seine-Maritime ou du Pas-de-Calais et elle s'étend cet après-midi sur le nord avec 5 départements en orange de la Haute-Normandie au Hauts-de-France. On attend sur ces départements une couche jusqu'à 5 à 10 cm, localement 20 sur les hauteurs. Près de la Belgique, la neige va continuer de tomber cette nuit et encore demain matin.
Vos prévisions, Olivier, dans une demi-heure. Le silence de l'Europe face au coup de boutoir de Donald Trump et d'Elon Musk. La commission reste muette, nous appellerons notre correspondant à Bruxelles. Et puis Didier Deschamps qui confirme bien son départ ce matin.
C'est quelque chose qui est très clair pour moi dans ma tête depuis bien longtemps. C'est juste clarifié, mais c'est pas pour demain, dans une semaine ou dans 3 semaines. Il y a encore de belles échéances devant nous et avec toujours la même détermination et la même exigence pour avoir les meilleurs résultats possibles.
Et oui, ce sera en 2026. D'ici là, il faudra redresser l'équipe de France. Dans une vingtaine de minutes, les conseils cinéma d'Alexis de Meyer. Et puis à partir de 13h30, nous nous arrêtons dans un département qui ne cesse d'être à l'affiche. C'est le Jura. Si vous aussi vous avez découvert ce territoire ou un autre grâce au cinéma, vous nous appelez 01 45 24 7000. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'imitateur Didier Gustin demande Claude Nougaro à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme, merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Voilà qui fait remonter de bien mauvais souvenirs. Au moins une vingtaine d'hôpitaux français ont déclenché ces derniers jours le plan blanc pour faire face à l'afflux de patients grippés et ainsi rappeler du personnel. Pour certains établissements, c'est même la première fois depuis 5 ans et la pandémie de Covid. Alors nous verrons dans un instant que les réticences sur la vaccination expliquent en partie cette situation. D'abord le point à Nice avec Pierre-Marie Tardieu. C'est le chef de pôle aux urgences du CHU Pasteur.
Nous sommes le premier service d'urgence de France, hein, en termes d'entrées, si vous voulez. Et donc, nous sommes passés à plus de 300 entrées par jour depuis le 30 décembre. Essentiellement, donc, des patients âgés, polypathologiques et grippés. Donc, depuis une semaine, nous sommes en tension sur le CHU de Nice avec une problématique de lits d'aval. Il faut absolument trouver des lits d'aval pour nos patients âgés donc, qui viennent et qui doivent être hospitalisés. Et donc, nous sommes en hôpital en tension depuis la semaine dernière.
Pierre-Marie Tardieu au micro d'ICI Azur à Nice. Dans les chiffres publiés ces derniers jours par Santé publique France, 2 nous interpellent. D'abord, près de 90% des hospitalisations pour grippe concernent les personnes âgées de plus de 65 ans. Et puis la couverture vaccinale est en baisse de 5% par rapport à l'année dernière. Et vous l'avez constaté, Saïd Makhloufi, dans certains EHPAD de Lozère, chez certains résidents et surtout chez des soignants.
Thérèse, 77 ans, ne veut pas se faire vacciner.
Non, non. Maintenant, à mon âge, si je pars, eh bien, tant pis.
Elle dit, elle a la même idée que moi.
Mais oui.
À l'âge qu'on a.
Si on part, c'est pas grave.
Si la situation fait sourire Thérèse, elle a de quoi inquiéter Laurence Cardona, c'est la directrice de la résidence Piancourt-Amande.
Ça pourrait poser un problème, oui, parce qu'en fait, c'est pas qu'une protection pour eux, c'est aussi une protection pour les autres.
À quelques kilomètres de là, l'EHPAD de l'Adoration.
Madame Martin, bon appétit.
Dans cet établissement, 90% des résidents sont vaccinés.
Ah oui, j'ai fait le vaccin contre la grippe il y a un mois déjà.
Et vous le faites à chaque fois, chaque année?
Oui, chaque année à peu près, oui.
Ici, les retraités et sont vaccinés, contrairement au personnel soignant.
Le problème qui se pose tous les ans, c'est le peu d'intérêt pour la vaccination au niveau des salariés.
Roselyne Durand, infirmière coordinatrice de l'établissement.
Donc moi, je reste persuadée qu'on les protégerait mieux si nous, on se faisait vacciner.
Vous avez fait le vaccin contre la grippe ?
Non.
Mélanie, infirmière au sein de l'EHPAD. Pourquoi vous ne le faites pas ?
Parce que je n'ai jamais eu la grippe.
Non, mais là, c'est pas pour vous, c'est pour les résidents.
Et oui, mais je pense qu'on a assez de vaccins et ça me suffit largement ce que j'ai.
Sur une cinquantaine de salariés de l'EHPAD, 6 sont vaccinés contre la grippe.
Reportage ici, Garloser, ex-France Bleu. Beaucoup s'étaient exprimés jusqu'ici. Après la mort hier à 96 ans de l'ancien leader de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, beaucoup, mais pas elle. Marine Le Pen, rentrée de Mayotte hier soir, a fini par sortir du silence dans la matinée avec ces mots pour son père. Écrit sur le réseau social X, beaucoup de gens qui l'aiment l'attendent là-haut, beaucoup de gens qui l'aiment le pleurent ici-bas. Fin de citation. Bonjour Élodie Forêt.
Bonjour.
C'est un message à mots pesés.
Oui, c'est toute leur relation père-fille si complexe que Marine Le Pen résume pudiquement. Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre, écrit-elle. Quelques mots qui racontent la réconciliation du clan depuis quelques années, depuis ses 90 ans, les trois filles réunies autour de Jean-Marie Le Pen. Pierrette, la première épouse, était elle aussi revenue dans le tableau aux premières loges à chaque soirée électorale. Une réconciliation après la grande rupture. En 2015, la fille, qui a toujours appelé son père Le Pen en public, l'exclut des instances après une énième provocation. « J'ai couvé un alligator », confiera-t-il au micro d'Aurélien Collier, alors en charge du FN pour France Inter. Elle le comparait parfois au dieu Chronos, celui qui mange ses enfants.
Alors, ces obsèques se dérouleront samedi à la Trinité-sur-Mer, en Bretagne, nous y serons dans un instant. Mais Marine Le Pen doit aussi gérer l'hommage du parti à Jean-Marie Le Pen. Beaucoup l'attendent.
Oui, certains le souhaitent, comme Louis Alliot, maire de Perpignan. L'idée ne choque pas non plus ce cadre, arrivé beaucoup plus récemment dans le parti. Si on est honnête, dit-il, il a mis sur la table les sujets toujours d'actualité au RN. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que la famille veut organiser une messe publique à Paris. Les trois sœurs se sont mises d'accord et ça, malgré le risque politique, se retrouver côte à côte avec tout ce que l'extrême droite compte aujourd'hui de plus radical. Tout le monde est le bienvenu dans une église, balaie le même cadre, y ajoutant un vœu pieux, ça ne relèvera plus du politique.
Merci Élodie Forêt. La Trinité-sur-Mer, justement, ce port du Morbihan, commune d'origine de Jean-Marie Le Pen, il y sera enterré et notre reporter Timur Özturk est allé ce matin à la rencontre des habitants.
Sur le port, battu par le vent et les averses ce matin, la plupart des Trinitains ne sont pas très bavards quand il s'agit d'évoquer Jean-Marie Le Pen.
Oh ben ça, je fais pas de politique. Hein.
Il faut dire aussi qu'on ne l'apercevait plus beaucoup ces dernières années.
J'ai plus vu sa fille ici que lui.
Jean-Marie Le Pen avait déjà légué la maison familiale, mais il garde à la Trinité quelques proches qui l'ont connu, comme le conseiller régional Rassemblement National, Florent de Kersauzon.
J'ai quand même un sentiment de tristesse. J'avais de l'amitié et on l'admire. De façon sympathique. Quoi.
Mais le fondateur du Front National était loin d'être populaire dans sa commune natale, au bar-tabac du port. Philippe ne cache pas son hostilité.
Il n'était pas très aimé du tout. Une fois qu'il soit enterré, il ne prend plus de conneries. Hein.
Jean-Marie Le Pen sera inhumé samedi au cimetière de la Trinité, dans le caveau familial des Le Pen, surmonté d'une croix celtique.
Alors, depuis hier, la bataille pour la mémoire est engagée. Les opposants à Jean-Marie Le Pen rappellent ses multiples condamnations en justice pour contestation de crimes contre l'humanité ou encore provocation à la haine. Plusieurs centaines ont manifesté hier soir dans les rues. Il y a eu quelques interpellations à Rennes, Lyon ou encore Paris. Manifestation déplorée ce matin par la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Quand Jacques Chirac était décédé, Jean-Marie Le Pen avait tweeté la chose suivante. « Mort, même l'ennemi a le droit au respect ». Donc je reprends ces mots pour avoir été une chiracienne, pour avoir combattu beaucoup Jean-Marie Le Pen sur ses positions, sur son comportement, sur ses déclarations. Je crois qu'aujourd'hui, mort, il a le droit au respect et sa famille à nos condoléances républicaines.
Les partisans du leader et du fondateur du Front National, eux, sont très présents sur les réseaux sociaux pour le défendre. Les réseaux sociaux, c'est là que beaucoup de jeunes ont découvert hier la figure de Le Pen. Elle y circule très intensément. Reportage William Delesseux.
À la sortie de ce lycée de l'Est parisien, Giovanna en seconde l'assure, le visage de Jean-Marie Le Pen s'affiche partout depuis hier.
Sur Instagram particulièrement.
Et même avant, elle avait découvert son nom en ligne.
Il y a beaucoup de politique sur les réseaux sociaux. On peut voir beaucoup d'images pas forcément positives. Je sais qu'il a toujours tenu des propos extrêmement limites par rapport à l'immigration et tout ce genre de choses.
En première, Thomas explore les archives.
Sur YouTube, Ina, par exemple. Je me souviens d'interviews où il tenait des propos racistes, xénophobes, etc. J'aime pas trop la personne.
Jean-Marie Le Pen, pour Robin en terminale, il n'en faut rien oublier.
C'était pour moi un facho. Ça reste un personnage quand même qui, même s'il était plus trop dans l'actualité, est resté connu de par ses faits antérieurs.
Fait qu'il a découvert dans des vidéos TikTok où l'ancien patriarche de l'extrême droite est parfois tourné en dérision.
Des phrases comme... je vais dire l'emblématique, même si c'est pas forcément le mot, Jeanne au secours.
Au pied de la statue de Jeanne d'Arc.
Exactement. Puis même des phrases homophobes, racistes, voilà.
Au-delà de l'image, ces lycéens sont conscients de la filiation de l'actuel Rassemblement National avec le Front National, cofondé par Jean-Marie Le Pen.
Ce qu'il nous reste à découvrir de Jean-Marie Le Pen, ce sera à 13h50, le thème de la chronique « C'est la France » d'Éric Fotorino. Nous étions, il y a une minute, sous la pluie du Morbihan à la Trinité-sur-Mer. La pluie battante également ce matin à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, pour l'hommage à Clarissa Jean-Philippe, cette policière municipale tuée le 8 janvier 2015 par le terroriste islamiste Hamedi Coulibaly, celui-là même qui tuera à nouveau le lendemain à l'Hypercacher. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi, Laurent, cet hommage ce matin. Sa ville de Montrouge ne veut pas l'oublier.
Oui, ne pas oublier Clarissa Jean-Philippe, jeune policière municipale âgée de 26 ans, assassinée, vous l'avez dit, par Hamedi Coulibaly ici à Montrouge. Le même terroriste qui allait s'attaquer dès le lendemain à l'hypercacher de la porte de Vincennes. Hommage républicain, dépôt de gerbes pour cette policière municipale. Moment de recueillement accompagné du chef de l'État qui n'a pas pris la parole. Le maire de Montrouge, Étienne Langereau, a rendu hommage à l'engagement de la policière.
Face à la barbarie, il y a le courage. Ce souvenir est un acte de résistance. Nous devons transmettre cette mémoire, en parler à nos enfants. Rappeler que derrière chaque uniforme, il y a une vie. Une histoire, une personne qui a choisi de servir les autres. En ce jour, nous nous inclinons avec respect et affection devant la mémoire de Clarissa. Nous ne devons jamais l'oublier.
Une stèle a été installée à l'endroit où était abattue la jeune policière en hommage à Clarissa Jean-Philippe. La ville de Montrouge vient de rebaptiser son hôtel de police du nom de la policière municipale.
Merci Laurent Kramer pour cet hommage à Clarissa Jean-Philippe en direct de Montrouge avec les moyens techniques de Raymond Albouy.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Elle est détenue depuis 2 ans et demi en Iran. Les nouvelles de la Française Cécile Kohler ne sont pas bonnes aujourd'hui. On va en parler dans un instant, mais d'abord ce qui est peut-être un signe d'espoir tout de même pour elle. On a appris ce matin la libération de la journaliste italienne Cecilia Sala, qui elle avait été arrêtée à Téhéran le 19 décembre dernier pendant un reportage. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Rome pour Inter. Blandine, Cecilia Sala est en train de rentrer en Italie.
Oui, tout à fait. L'avion qui ramène Cecilia Sala en Italie a décollé il y a un peu moins de 2 heures maintenant. C'est ce que nous a fait savoir le gouvernement ici à Rome, qui se félicite de cette libération. Résultat d'un travail intense à travers les voies diplomatiques et les renseignements, dit le gouvernement. Il faut dire que l'affaire était délicate. La journaliste de 29 ans était détenue dans la prison d'Evin, dans la capitale Téhéran, accusée d'avoir violé les lois de la République islamique, mais sans autre motif précisé par les Iraniens. C'est ce que n'ont cessé de dénoncer les autorités italiennes, alors que Cecilia Sala, qui travaille pour un quotidien et pour un site de podcast ici, était en séjour professionnel, arrêtée en possession d'un visa de journaliste. Cette arrestation est retenue par Rome comme une probable représaille à celle d'Iraniens, notamment d'un expert en drone qui a été interpellé en décembre sur le territoire italien à la demande des États-Unis, que Giorgia Meloni a d'ailleurs sollicité pour assouplir la position américaine vis-à-vis de l'Iran et ainsi aujourd'hui permettre cette libération de l'italienne qui doit arriver à Rome dans l'après-midi après 3 semaines de détention à Téhéran.
Blandine Hugonnet en direct d'Italie pour Inter. Cécile Kohler, cette professeure française arrêtée elle en plein voyage touristique en Iran est donc toujours détenue, coupée du monde dans la prison d'Evin où elle a été placée à l'isolement. Et ce matin sur Inter, la prix Nobel de la paix 2023, l'iranienne Narges Mohammadi a donné de ses nouvelles. Narges Mohammadi a pu nous parler car elle est temporairement sortie de détention pour se soigner. Et selon elle, Cécile Kohler qui est détenu détenue dans la même prison qu'elle, est très affaiblie sur le plan physique. Elle se dit très inquiète pour elle. La sœur de Cécile, Noémie, à écouter ce témoignage ce matin.
C'est bouleversant, même si c'est vrai qu'on connaît les conditions de détention de Cécile. En tout cas, on en connaît assez pour que ça nous inquiète énormément sur sa santé. Mais c'est vrai qu'être confronté au concret et au réel, c'est toujours douloureux. Ça vient juste concrétiser nos craintes. Après, ce témoignage, pour nous, il est très important parce qu'il vient appuyer ce qu'on dénonce depuis 2 ans et demi, à savoir les conditions de détention destructrice de Cécile. Et pour nous, c'est aussi très important et très précieux de savoir que Cécile a le soutien de Narges Mohammadi et des femmes de la prison des Vignes. Pour nous, c'est d'une urgence absolue qu'elle soit extraite de cette section 209 dans laquelle elle est détenue depuis 3 ans. Et on sait que c'est invivable, que c'est impossible en fait de rester en bonne santé dans cet endroit-là. Donc on continue de le demander, on continue d'interpeller les autorités iraniennes comme on peut pour qu'elle sorte enfin Cécile de la section 209 et qu'elle la transfère dans un quartier où les conditions de détention sont moins inhumaines.
Noémie Colère, la sœur de Cécile au téléphone de Valérie Crova. L'Iran, qui comme le reste du monde, se prépare à composer avec un nouvel interlocuteur à Washington, Donald Trump, sans oublier son futur ministre de l'efficacité gouvernementale, le milliardaire Elon Musk. Deux hommes qui, ces derniers jours, ces dernières semaines, s'en sont pris directement et violemment à 2 pays de l'Union européenne. Elon Musk fait ouvertement campagne sur son réseau social X pour l'extrême droite allemande et il qualifie le chancelier Olaf Scholz, je cite, d'imbécile incompétent. Quand Donald Trump, lui, parle d'annexer le territoire du Groenland, qui est un territoire danois, pays de l'Union européenne. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de France Inter à Bruxelles. Fabien, ces mises en cause sont gravissimes, mais pour l'instant, à la Commission européenne, personne ne réagit ?
Oui, alors il y a des explications officielles. Hein. D'une part, le fait qu'une visite du fils de Donald Trump au Groenland ne constitue pas en soi un acte officiel de la diplomatie américaine, c'est davantage vu ici comme une provocation qui ne justifie pas nécessairement de réaction officielle. Il y a aussi le fait que le Groenland ne fait pas officiellement partie de l'Union européenne malgré ses liens historiques avec le Danemark, mais c'est tout de même un territoire d'outre-mer qui lui est bel et bien associé avec un statut particulier. Pour l'instant, vous le disiez, pas de réaction officielle de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Quant à Elon Musk, il y a bien eu quelques réactions de chefs d'État européens à titre individuel. Emmanuel Macron a fustigé avant-hier l'international réactionnaire qu'il promeut sur X, ou l'espagnol Pedro Sanchez à l'instant qui vient d'accuser Musk d'attaquer ouvertement les institutions et d'attiser la haine.
Comment expliquer ce silence de la Commission, Fabien ?
Alors, d'abord, par la pression que Donald Trump a mis à plusieurs reprises sur les Européens ces dernières semaines, sur plusieurs sujets. La défense, il presse ses alliés européens de l'OTAN d'augmenter très significativement leurs investissements militaires. On pourrait aussi citer les menaces de relèvement de droits de douane. Et puis, face à lui et à son futur ministre Elon Musk, il faut bien reconnaître que les 27 ont du mal à faire front commun entre ceux comme l'italienne Giorgia Meloni qui revendique sa proximité idéologique avec le futur président des États-Unis ou d'autres qui espèrent accueillir l'investisseur Elon Musk s'il décide d'ouvrir de nouvelles usines Tesla en Europe.
Merci Fabien Cazot. Parmi les nombreuses annonces de Donald Trump ces derniers mois, celle-ci résonne étrangement aujourd'hui. L'arrêt de l'aide fédérale reçue par la Californie pour lutter contre les feux de forêt. Tout cela alors que Los Angeles, la ville la plus importante de Californie, la deuxième du pays, fait face à un très violent incendie. C'est le fortuné quartier de Pacific Palisades qui est en feu. Bonjour Étienne Monin.
Bonjour.
1200 hectares ravagés, 30 000 personnes doivent être évacuées et le feu reste incontrôlable.
Oui, sur l'une des nombreuses vidéos postées il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, on voit de nuit un bord de route incandescent sur le front de mer du Pacifique qui illustre l'ampleur des dégâts et le caractère incontrôlable des feux. Les flammes touchent 3 secteurs autour de Los Angeles, 4 millions d'habitants. Le feu avance au nord-est et nord-ouest. Il est poussé par des vents hors normes qui vont des montagnes vers la mer et qui ont pu atteindre les 150 km/h sur les hauteurs. Comme la tempête ne devrait pas faiblir avant plusieurs heures, le pire est encore redouté. Les pompiers se concentrent sur le sauvetage des personnes. Ils ne peuvent pas encore contenir les flammes, explique le président des pompiers professionnels de Californie, Brian Rice, au micro de CNN.
Ils regardent ce qu'ils ont en face d'eux. S'ils peuvent, ils cherchent à intervenir pour sauver des maisons. Mais pour l'heure, leur mission première, c'est d'évacuer les civils pour les mettre à l'abri.
Par endroits, des bulldozers ont été utilisés pour dégager des routes qui étaient encombrées par des voitures abandonnées. 1400 pompiers sont engagés. L'état d'urgence a été décrété. Pour l'heure, il n'y a pas de victimes. Au moins un stade a été réquisitionné pour accueillir les déplacés. Le sud de la Californie souffre d'un important déficit de pluie cet hiver qui alimente la combustion de la végétation.
Précision signée Étienne Monin. Merci Étienne. Là, c'est l'heure de la reconstruction à Mayotte après le passage du cyclone Chido. Et pour cela, le gouvernement a estimé avoir besoin d'un texte spécial, notamment pour déroger à nos règles d'urbanisme. D'où la présentation ce matin en Conseil des ministres d'un projet de loi d'urgence. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Vous êtes à l'Élysée pour Inter, texte présenté ce matin par le nouveau ministre des Outre-mer, Manuel Valls.
Oui, un texte qui comprend une batterie de mesures pour écraser les procédures, aller plus vite dans la reconstruction, dérogation aux règles de l'urbanisme pour une durée de 2 ans ou aux règles de la commande publique, création d'un établissement public pour piloter cette reconstruction ou encore suspension de certains recouvrements fiscaux et sociaux. Mais Manuel Valls l'a dit lui-même, ce texte est incomplet, il appelle le Parlement à l'enrichir, notamment sur un sujet crucial, dit-il, la lutte contre l'habitat illégal.
Nous ne laisserons pas Mayotte redevenir une île bidonville. Il nous faudra réfléchir, par exemple, à élargir les catégories d'agents pouvant constater l'édification illégale ou encore à faciliter juridiquement pour les officiers de police judiciaire la traversée des bidonvilles, des mangas. Je reconnais que c'est un des dossiers les plus difficiles.
Un dossier difficile et qui s'articule selon lui à l'immigration clandestine. Un fléau qui ronge Mayotte, a-t-il répété ce matin. Il l'a dit, la question du durcissement du droit du sol dans l'archipel sera posée dans la loi programme qui sera présentée dans les 3 mois. Pour toutes ces mesures, combien, quelle enveloppe consacrée à Mayotte ? Manuel Valls est resté prudent.
Il est très difficile de vous donner un chiffre parce qu'il faut attendre l'ensemble des expertises. Mais 3 milliards.
Et il chiffre à plusieurs centaines de millions d'euros les mesures déjà prises à Mayotte dans le cadre de la gestion de crise et de l'extrême urgence.
Marie Mollet à l'Élysée pour Inter.
Moteur.
T'as de bons yeux, tu sais.
C'est tout joli, mes fesses.
Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes là pour nous parler des sorties ciné de ce mercredi, mais avant de vous donner la parole, prenons des nouvelles d'un acteur qui a crevé l'écran l'an dernier et dont vous nous aviez parlé, c'est Abou Sankaré, qui incarnait un livreur guinéen dans le film L'histoire de Souleyman. Sankaré récompensé, on s'en souvient, au Festival de Cannes, mais dont les 3 premières demandes de titre de séjour avaient été refusées. Eh bien, la 4e a été la bonne. Il a récupéré le document ce matin même en préfecture à Amiens. Titre de séjour salarié valable 1 an. Grâce notamment à une promesse d'embauche comme mécanicien, c'est France Bleu Picardie aujourd'hui, ici Picardie, qui nous donne cette information et qui a pu joindre Boris Lochkin, c'est le réalisateur de l'histoire de Souleyman.
Ça fait déjà quelques jours, voire quelques semaines qu'on sait que ce papier est en train de se préparer. Donc on a eu le temps de se réjouir beaucoup, mais ça me fait tellement, tellement plaisir pour lui parce que je l'ai vu tellement malheureux ces derniers mois. Alors même que on avait fait ce film, que ce film était un succès et que lui était toujours condamné à rester enfermé chez lui, à attendre que quelque chose se passe, quelque chose tombe du ciel comme ça. C'est terrible de voir quelqu'un comme ça qui est plein d'énergie, qui a envie de faire plein de choses et qui est, comme il dit lui-même, comme en prison chez lui. Pour moi, c'est un peu la fin du travail. Je l'avais dit comme ça plus tôt. J'avais dit que tant que Sankaré n'aurait pas de papier, j'aurais pas terminé mon travail sur le film. J'estime que c'est ma responsabilité à moi, comme réalisateur qui l'a emmené dans cette galère du cinéma, d'être à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'à cette régularisation. Donc, mission accomplie pour moi.
Voilà, des papiers donc pour Abou Sankaré. On en revient à votre sélection, Alexis. À commencer par ce coup de cœur, ça s'appelle Les Feux Sauvages.
Oui, nous sommes seulement début janvier et je suis déjà à peu près persuadé que ce nouveau long métrage du chinois Jia Zhangke sera dans mon top 10 de l'année 2025. Projeté en compétition à Cannes en mai dernier, Les Feux Sauvages déploie son récit sur 2 décennies, les premières du XXIe siècle. En utilisant des images de ses précédents films, Jia Zhangke parvient à reconstituer l'histoire d'amour tourmentée entre une femme et un homme dans une petite ville populaire du nord de la Chine. Cette romance est particulièrement touchante. Rarement le temps qui passe n'aura été aussi bien signifié sur grand écran. Et bien sûr, en suivant ces deux personnages, nous sommes aussi témoins des mutations du pays rendant cette œuvre définitivement incontournable.
Vous avez été moins convaincu par La chambre d'à côté de Pedro Almodovar.
I'll sleep with my door open, and the day that you find it closed is the day it's already happened.
Le réalisateur espagnol traverse pour la première fois l'Atlantique pour nous raconter la destinée de deux bourgeoises new-yorkaises liées par la question de la fin de vie et du droit à mourir dans la dignité. Jusque-là, tout va bien, d'autant que les protagonistes sont interprétés par les jamais décevantes Tilda Swinton et Julianne Moore. Mais Almodovar a vieilli et son cinéma avec lui, tournant définitivement le dos à la folie punk de ses débuts, puis à l'irrévérence de ses plus grands films, de Tout sur ma mère à Volver. Il semble ici chercher la reconnaissance des grands festivals, et grand bien lui en a pris puisqu'il est reparti de Venise avec le Lion d'Or. Pour ma part, je reste vraiment sur ma faim. Dialogue mal écrit, rebondissement prévisible ou artificiel, musique envahissante et sirupeuse, mise en image caricaturale. On pourrait presque apprécier le côté série B du projet, mais malheureusement, Almodovar semble désormais se prendre très au sérieux.
Et un documentaire en salle cette semaine, intitulé malicieusement « Personne n'y comprend rien ».
Oui, car c'est une citation de Nicolas Sarkozy évoquant dans le Figaro en 2023 l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne en 2007.
Pour comprendre cette affaire, il faut commencer par remonter assez loin en arrière.
On va comprendre que de l'argent a été mis sur la table.
Alors que le procès de cette affaire a débuté lundi à Paris, le film de Yannick Kargoat propose justement de mieux comprendre cette affaire très complexe. Ce documentaire d'une facture très classique s'appuie sur la longue enquête de Mediapart, interrogeant ses deux auteurs, Fabrice Arfi et Karl Lasquet, et c'est passionnant.
Quoi d'autre à l'affiche cette semaine, Alexis ?
La fille d'un grand amour, une comédie romantique avec Isabelle Carré et François Damiens. Hiver à Sokcho, un drame familial en Corée du Sud avec Roche Dizem dans le rôle d'un touriste français. Et je vous signale aussi un film américain intitulé Bernie. Il date de 2011, mais il était inédit en France. Cette comédie noire signée Richard Linklater est totalement savoureuse avec l'impayable Jack Black dans le rôle titre, mais aussi Matthew McConaughey et l'immense Shirley MacLaine. Linklater s'est inspiré d'un vrai fait divers pour ce faux documentaire tourné dans son Texas natal. Et c'est donc ce mercredi en salle.
Merci Alexis Demeyer. On va reparler cinéma dans une minute et du Jura, terre de tournage.
Oh, Dieu.
Ces derniers mois, notamment. Là, le titre, c'est chronique d'un départ annoncé. Didier Deschamps va quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France de football qu'il occupe depuis 2012, mais ce sera uniquement après la Coupe du Monde 2026. Bonjour Nathalie Yanetta.
Bonjour Jérôme Cadet.
Directrice des sports de Radio France. Alors, l'information a fuité hier soir et vous en avez eu la confirmation dans la soirée, mais l'interview n'est diffusée qu'en ce moment, dans le 13h de TF1, alors que manifestement, ça n'était pas prévu.
Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu'en 2026, la prochaine Coupe du Monde, mais ça s'arrêtera là parce qu'il faut que ça s'arrête là au moment.
Ah, vous arrêterez, ce sera terminé.
Dans ma tête, oui, c'est bien clair.
Bah, c'est une annonce, ça?
Oui.
Oui, voilà, on entend l'étonnement de la présentatrice Marie-Sophie Lacaro dans le style traditionnel de Didier Deschamps, avec à ses côtés Brigitte Macron, qui était là
qui
aussi pour parler des pièces jaunes et qui semble extrêmement surprise de cette annonce. Bon, on verra qui arrive après Didier Deschamps. Tout viendra à point, dit ce matin le président de la Fédération Française de Football, si c'est Zinedine Zidane qui lui succède dans un peu plus d'un an. Mais d'ici là, Nathalie Yanetta, il y a du pain sur la planche pour Didier Deschamps. L'équipe de France ne va pas bien fort.
Et si c'était le sort qu'il manquait à cette équipe de France qui, vous l'avez dit, c'est vrai, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles Didier Deschamps dit qu'il s'arrêtera après 2026. Il a subi beaucoup de critiques sur ses choix, sur sa gestion des joueurs, sur le style de jeu. C'est une manière peut-être, allez savoir, pour lui de libérer une soupape et de faire un pari, ressouder le groupe en assumant une décision claire, responsable et lucide. Alors l'ambition, rassurez-vous, elle sera toujours aussi forte, même si le groupe est en reconstruction, puisque on a assisté au départ notamment de Antoine Griezmann il y a quelques semaines. Les joueurs, eux aussi, probablement, vont se sentir libérés, mais quand même liés à un pacte pour réussir jusqu'au bout avec un sélectionneur qui, quand même, reconnaissons-le, aura été et aura offert au football français un palmarès hors norme. Et bon courage pour le prochain, parce que 14 ans de longévité avec le palmarès de Deschamps, ça sera pas facile d'y succéder, même si tout le monde pense à lui et que lui sera probablement à la hauteur, c'est Zinedine Zidane.
Deux lignes encore peut-être au palmarès de Didier Deschamps, la Ligue des Nations cette année et peut-être la Coupe du Monde aux Amériques.
Prochain rendez-vous en mars pour les quarts de finale.
Merci Nathalie Yanetta, directrice des sports de Radio France, 13h29 sur Inter.